Bonne année! Ça y est, nous sommes en 2020, je vous souhaite donc une belle et heureuse année! Souhaitez la bonne année, ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, ah oui, les vœux. Je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite d'être en forme, je vous souhaite tellement de paysages qu'ils en débordent de vos yeux, je vous souhaite suffisamment d'envie et de courage pour sortir de votre zone de confort, je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite d'être en forme, je vous souhaite tellement de paysages qu'ils en débordent de vos yeux, je vous souhaite suffisamment d'envie et de courage pour sortir de votre zone de confort, je vous souhaite d'être bercé, choyé, aimé, je vous souhaite de rire si fort que les heures sortent du cadran, je vous souhaite d'ouvrir la porte aux avalanches, de sortir sans moufle, sans écharpe, sans bonnet, je vous souhaite de réussir et de rater. Les vœux, c'est obligatoire, et c'est pas toujours sincère. Mais bon, voilà, c'est fait. Ensuite, ah oui, les résolutions. Pour les résolutions, remettez tout à 2021. Voilà, c'est fait, on va pouvoir lancer l'émission. Louis, c'est parti, envoie le jingle. Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Si on commençait l'année sur une série de bons conseils, voici le conte « L'oiseau et l'hiver ». Un jour d'hiver et un jour de grand froid, un homme chemine le long d'une route. Tout à coup, à ses pieds, un oiseau transi, un oiseau gelé qui grelotte dans ses plumes, mais qui a encore la force de chanter. Ému, l'homme se penche, ramasse l'oiseau et l'installe bien au chaud sous son manteau. Puis il poursuit sa route. Un peu plus loin, l'homme aperçoit une bouse de vache fraîche et fumante, chaude et moelleuse comme un nid douillet, mais un peu gluante aussi. Il prend l'oiseau et l'y dépose délicatement. L'oiseau continue de chanter, tandis que l'homme s'en va. Un peu plus tard, sur cette même route passe un renard. Lorsqu'il voit l'oiseau dans la bouse, il s'approche et le dévore aussitôt. Il y a trois morales à cette histoire. La première, lorsqu'on vous met dans la merde, ce n'est pas toujours que l'on vous veut du mal. La deuxième, lorsqu'on vous sort de la merde, ce n'est pas toujours que l'on vous veut du bien. Et la troisième, quand on est dans la merde, pourquoi continuer de chanter? On en fait quoi de cette histoire? Est-ce qu'il faut en déduire qu'un homme en manteau qui vient vous aider est forcément un danger? Oh là, stop! On n'est pas sur TF1, là! Alors on arrête immédiatement la psychose et la peur des hommes en manteau. Il y a des hommes en manteau qui sont très gentils. Disons que, dans cette histoire, l'homme n'est pas mal intentionné. Au contraire, il essaie sincèrement d'aider l'oiseau et de prendre soin de lui. Mais des fois, en voulant aider, eh bien ça rate. Ça tombe à côté. L'homme aide l'oiseau en agissant comme on aurait aimé qu'il le fasse pour lui. C'est-à-dire que si l'homme avait été seul dans le froid, peut-être qu'il aurait aimé qu'on prenne soin de lui et qu'on l'amène au chaud. Ce qu'il fait pour l'oiseau, il le prend d'abord contre lui, puis le rend à la nature. Mais de toute évidence, ça n'a pas été la meilleure chose pour l'oiseau, puisqu'il va être mangé par un renard. La fin funeste de l'oiseau pourrait s'expliquer par le décalage entre deux comportements. L'homme propose une solution d'être humain au problème d'un animal. Et la fin de ce conte nous montre qu'il y a une différence entre la logique humaine et la logique animale. En ce qui concerne la question qui termine le conte, je vous la rappelle, quand on est dans la merde, pourquoi continuer de chanter? Honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette dernière question. Mais quand on y pense, c'est vrai que c'est hyper. Hyper courageux de chanter quand on est dans la merde. Et donc là, tout de suite, paf, association d'idées, me vient en tête la pochette du dernier album de Céline Dion qui s'intitule « Courage ». Est-ce qu'on chante pour se donner du courage? Prenons l'exemple de la Marseillaise, qui était originellement intitulée « Chandelière pour l'armée du Rhin » et qui a été écrite en 1792 lorsque le roi a déclaré la guerre à l'empereur d'Autriche. C'était un chant pour aller au combat, pour se donner du courage. Alors, est-ce qu'on chante pour se donner du courage ou est-ce qu'on montre son courage en le chantant? Est-ce que l'oiseau de notre conte utilise le chant pour montrer qu'il fait face, qu'il résiste, qu'il tient tête au froid et à l'hiver? Est-ce qu'il chante pour dire qu'il est encore là? Est-ce que l'interprétation de ce conte yiddish m'a amené à parler de Céline Dion et de la Marseillaise? Il faut vraiment que je me reprenne en main car cette première émission de l'année est très mal partie. Alors qu'en fait, j'aurais tout simplement pu relier ce conte à la chanson de Dominique A, Le courage des oiseaux.
Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser.
Pour les bons conseils, voici un conte intitulé « La parole ». Il était une fois un pêcheur nommé Drid. C'était un homme de bonne fréquentation. Il était vigoureux, d'allure franche, et son œil, quand il riait, était aussi vif que le soleil. Or, voici ce qu'il advint. Un matin, comme il allait le long de la plage, son filet sur l'épaule, la tête dans le vent et les pieds dans le sable, à la lisière des vagues, il rencontra sur son chemin un crâne humain. Ce reste de tête, seul parmi les algues sèches, réveilla l'humeur bavarde et joyeuse de Drid. Il s'arrêta devant le crâne, se pencha et dit « Crâne, pauvre crâne, qui t'a conduit ici ?» Il rit, n'espérant aucune réponse, bien sûr. Pourtant, les mâchoires blanches de crâne s'ouvrirent dans un mauvais grincement et dirent « La parole !» Drid fit un bond en arrière, resta un moment à l'affût comme un animal épouvanté, puis voyant cette tête de vieux mort aussi immobile et inoffensif qu'un caillou, il pensa avoir été trompé par les sournoiseries du vent. Mais tout de même, il se rapprocha un peu plus du crâne et répéta, la voix un peu tremblante, sa question. « Crâne, pauvre crâne, qui t'a conduit ici ?»«
La parole !»
répondit le vieux crâne avec, cette fois, un rien d'impatience et d'agacement et une indiscutable honnêteté. Alors Dride poussa un cri d'effroi, recula, les yeux exorbités, tourna les talons et s'enfuit, les bras au ciel comme si mille diables étaient à ses trousses. Il courut ainsi jusqu'au village, le traversa, revint sur ses pas et entra comme une bourrasque dans la maison du roi. Le roi était majestueusement attablé devant son porcelet matinal. Dride tomba à ses pieds, tout suant et soufflant. « Roi, dit-il, sur la plage, là-bas, il y a un crâne qui parle. »
« Un crâne qui parle ?» dit le roi.
« Homme, es-tu saoul ?» Il partit d'un rire rugissant, tandis que Dride protestait avec humilité. « Saoul ? Moi ? Misère ! Je n'ai bu depuis hier qu'un peu de lait de chèvre. Roi vénéré, je te prie de me croire et je t'assure que j'ai rencontré un crâne parlant aussi franchement que n'importe quel vivant.
« Je n'en crois rien, » répondit le roi.
« Cependant, il se pourrait que tu dises vrai. Dans ce cas, je ne veux pas risquer de me retrouver à être le dernier à voir et à entendre ce bout de mort considérable. Mais je te préviens, si par égarement tu t'es laissé aller à me conter des balivernes, homme de rien, tu le paieras de ta tête.
Je ne crains pas ta colère, mon roi, car je sais bien que je n'ai pas menti. »
Le roi décrocha son sabre, le mit à sa ceinture et s'enfuit, trottant derrière sa bedaine, avec Dride, le pêcheur. Ils cheminèrent le long de la mer jusqu'à la brassée d'algues où était le crâne. Dride se pencha sur lui et, caressant humblement son front rocheux, il dit « Crâne, voici devant toi le roi. Daigne, s'il te plaît, lui dire des mots de bienvenue. » Aucun son ne sortit de la mâchoire d'os. Dride s'agenouilla, le cœur soudain battant. « Crâne, par pitié, parle. Notre roi a l'oreille fine. Un murmure lui suffira. Dis-lui, je t'en conjure, qui t'a conduit ici ?» Le crâne miraculeux ne parut pas plus entendre qu'un crâne vulgaire. Il resta aussi sottement posé que le plus médiocre des crânes, aussi muet qu'un crâne imperturbablement installé dans sa définitive condition de crâne au grand soleil parmi les algues sèches. Bref, il se tut obstinément. Le roi, fort agacé d'avoir été dérangé pour rien, fit une grimace de dédain et tira son sabre de sa ceinture.
« Maudit menteur, » dit-il.
Et sans autre jugement, d'un coup sifflant, il trancha la tête de Dride. Après quoi, il s'en revint en grommelant à ses affaires de roi le long des vagues. Alors, tandis qu'il s'éloignait, le crâne ouvrit enfin ses mâchoires grinçantes et dit à la tête du pêcheur qui, roulant sur le sable, venait de s'accoler à sa joue creuse « Tête, pauvre tête, qui t'a conduit ici ?» La bouche de Dride s'ouvrit, la langue de Dride sortit et la voix de Dride dit
« La parole. »
Drôle de conte, n'est-ce pas ? Enfin, drôle, je ne veux pas dire qu'il est marrant, mais il est pour le moins surprenant. Il y a plusieurs idées qui se dégagent de ce conte et plusieurs interrogations aussi. La première, c'est « Est-ce que, parfois, il vaut mieux se taire ?» Dride a voulu bien faire. Il a voulu avertir son roi de la découverte qu'il a faite sur ses terres, mais son honnêteté, sa transparence, lui ont coûté la vie. L'honnêteté de Dride apparaît à plusieurs reprises à travers son discours. Notamment lorsqu'il vient chercher le roi. Il dit, je reprends le texte, « Roi vénéré, je te prie de me croire. Je t'assure que j'ai rencontré un crâne parlant. Je sais bien que je n'ai pas menti. » Pour autant, la foi de Dride, sa confiance en lui, ne suffit pas à convaincre le roi. Celui-ci a besoin de voir ce que Dride lui a raconté. Ceci montre déjà qu'il est difficile d'obtenir la confiance du roi. Celui-ci ne fait confiance qu'à lui-même et ne croit que ce que ses yeux lui montrent. C'est donc pas gagné pour Dride, et malheureusement pour lui, le crâne ne sera pas de son côté. L'honnêteté n'est donc pas toujours une alliée, et en voulant bien faire, Dride a perdu la vie. Le conte ne dit pas pour autant qu'il est préférable de mentir, il suggère simplement que le silence a aussi ses vertus. Et je me demande si ce conte ne pose pas une autre question. Est-ce qu'il n'est pas parfois un peu vain d'essayer de convaincre des gens qui, d'emblée, ne nous croient pas ? Si le roi avait tout de suite cru Dride à propos de ce crâne parlant
et qu'il était allé le voir de ses propres yeux juste comme une formalité, est-ce que le crâne ne se serait pas mis à parler ? Autre question, est-ce que le crâne, en se taisant, et donc en conduisant Drid à une mort certaine, n'essaie pas de dire au pêcheur qu'il a un roi pour lequel on ne mérite pas de dédier sa vie ? Un roi qui ne croit pas son sujet lorsqu'il vient lui parler d'une découverte extraordinaire, mérite-t-il qu'on vive pour lui ? Il est temps de reposer un peu les neurones avec une deuxième pause musicale. Voici Tom the Model de Beth Gibbons.
Forget your tender smile. Moments that I have shared with you all hard.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Reprenons la tentative d'analyse du conte sur la parole. Moi, j'avais encore une autre question sur ce conte. Quelle est la valeur de la vérité ? Et plus généralement,
est-ce que la vérité n'est pas un point de vue ? Drid a vu et entendu parler un crâne. Donc, lorsqu'il vient dire au roi ce qu'il a découvert sur la plage, Drid, pour lui, dit la vérité, puisqu'il l'a vu et entendu ce crâne. Mais comme le roi ne l'a pas entendu parler, il en déduit que Drid a menti. Et nous, en tant que lecteurs, on est bien embêtés, car on sait que le crâne a parlé, mais on ne peut pas intercéder en faveur de Drid et nous assistons à sa mise à mort sans pouvoir rien faire. La notion de justice est problématique dans ce conte. Et en ceci, elle rejoint d'ailleurs la question de la vérité. Drid est condamné à mort parce qu'il a menti. En effet, aux yeux du roi, il a menti. Mais Drid, et nous lecteurs, savons que Drid a dit la vérité, et donc sa condamnation à mort est injuste. La vérité n'est pas toujours accompagnée d'une forme de justice. Drid a beau se dévouer entièrement pour son roi, accourir vers lui pour lui faire part d'une découverte incroyable sur ses terres pour qu'il ne soit pas le dernier au courant, ceci le conduira malgré tout à la mort. Et la cruauté dans ce conte a vraiment sa place, notamment avec la figure du roi qui est présentée comme un personnage fort peu sympathique. Tandis que Drid débarque chez lui, le roi est, je cite, « majestueusement attablé devant son porciné matinal ». Ça nous donne l'image d'un roi qui vit dans le faste, le luxe, et cette image est d'autant plus forte que juste avant, on a eu la description de Drid qui est présenté comme un pauvre pêcheur et qui n'a bu, depuis la veille, qu'un peu de lait de chèvre. Le roi paraît encore plus détestable quand Drid lui fait part de sa découverte et que celui-ci partit d'un rire rugissant tandis que Drid protestait avec humilité, comme le dit le texte. Ensuite, il insulte Drid en lui demandant s'il est saoul et en l'appelant « homme de rien ». Puis, voyant que le crâne reste muet, pour punir Drid de l'avoir fait se déplacer pour rien, il le tue, sans autre forme de procès, avec, je cite, « une grimace de dédain ». La punition est démesurée en réponse à ce qui s'est passé. Mais dans ce conte, il n'y a pas que le roi qui est cruel, il y a le crâne aussi. Il est odieux. Lorsqu'il parle à Drid, il le fait, j'allais dire en traînant la patte, mais l'expression est mal choisie parce que le crâne n'a pas de patte. Je dirais qu'il ne le fait pas de bon cœur. Le texte nous dit, je cite, « La parole !» répondit le vieux crâne avec, cette fois, un rien d'impatience et d'agacement. Comment un crâne peut avoir de l'impatience puisque de toute façon sa vie est terminée et qu'il n'a rien d'autre à faire? Mais enfin bon. Et lorsque le crâne est face au roi et à Drid, il se tue obstinément, pour citer le texte. Il sait sans doute qu'en se taisant, il condamne Drid à une mort certaine, ce qui ne l'empêche pas de garder les mâchoires serrées. Décidément, tout va à l'encontre de Drid. Son honnêteté et son côté humble ne font pas le poids face à la cruauté du roi et du crâne. Non, les gentils n'ont pas toujours la vie sauve. Alors, si j'ai un conseil à vous adresser pour cette année 2020, la prochaine fois que vous vous promènerez sur la plage, au lieu de parler à des crânes, eh bien, je sais pas, ramassez plutôt des coquillages. C'était l'émission Compte-Gouttes. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.